Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. On se retrouve au mois d'avril avec une invitée de qualité de nouveau. Il s'agit d'Alban de Marnac. Salut Alban.
Salut Ange.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les mécréants qui ne te connaissent pas encore ?
Alors, donc moi je suis Alban de Marnac, je fais de la photographie depuis 2015, donc ça fait déjà un petit bout de temps finalement. Et je fais ce que j'appelle de la photographie du vivant, c'est-à-dire les mariages, les naissances, les familles, un petit peu de corpo, mais c'est pas moi ce qui me fait le plus vibrer. Je forme aussi les photographes pour leur entreprise.
Et tu formes les photographes depuis longtemps ?
Je les forme depuis, finalement, ça passe vite la vie, depuis 3 ans.
Ouais, c'est pas mal. C'est justement, je pense que cette expérience de formatrice va nous servir aujourd'hui parce que le sujet qu'on aborde cette fois-ci, c'est un sujet palpitant pour à peu près tous les gens qui écoutent ce genre de podcast, je pense. Il s'agit de la créativité. C'est un concept assez large qui englobe beaucoup de choses et aujourd'hui, on va commencer par te demander, Alban, ce que c'est pour toi la créativité.
Alors pour moi, la créativité, c'est une zone dans ma tête qui est très importante. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin dans mon travail. Et si j'ai pas cette créativité dans mes images, je sais que ça va être un peu vide et que même moi, je vais m'ennuyer. Moi, ce que j'aime bien dans le côté création et créativité, c'est que ça vient du latin. Je suis très littéraire. Ça vient du latin creatio et ça veut dire action de créer, de donner l'être et l'existence. Et moi, comme j'ai une âme d'enfant, je trouve que le parallèle avec le mot récréation est important.
Ah, oh, j'adore.
Parce que pour moi, c'est vraiment une zone où je m'amuse. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de censure par rapport à ça. Je me dis, j'ai une idée, je vois des choses qui m'inspirent. Je vais mixer ça dans ma tête, dans cette zone justement de créativité. Et ensuite, je vais pouvoir en faire un projet qui moi, va m'amuser et va me faire travailler sur des aspects techniques que j'ai envie de développer en séance.
Génial. Du coup, là, plus pratiquement, qu'est-ce que c'est le dernier projet créatif qui te fait un peu vibrer et qui te sert de récréation dans le quotidien ? Est-ce que ce serait le projet Windmill, par exemple ?
Alors, oui, effectivement, ce projet, en plus, c'est un projet que j'avais depuis vraiment quelques années. À la base, le projet devait s'intituler Peter Pan, avec cette idée de quitter l'enfance et de la retrouver un petit peu, et ce côté aussi un peu regret du temps passé.
Alors attends, petite pause pour ceux qui sont intéressés et tout, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram d'Alban de Marnac pour voir ses vidéos Windmill. Vous aurez un aperçu de ce petit moulin à vent tout coloré qui vous fera mieux comprendre ce dont on parle.
Et donc ce projet va s'intituler effectivement Peter Pan. Et à la base j'avais l'idée de faire un triptyque. Donc un triptyque, c'est 3 photos mises à côté à peu près. Et je voulais que la personne que je photographie ait dans les mains une photo d'elle enfant. Parce que je trouvais que le parallèle était assez intéressant. Et en fait, en termes de mise en action de ce projet, je me suis rendu compte que demander à la personne d'aller chercher une photo d'elle enfant où elle se trouvait bien,
c'est pas évident.
Compliqué. Ouais. Ou alors il fallait qu'elle aille lors des fêtes de famille chercher dans le grenier.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous la photo chez nous.
Et voilà. Et ça, c'était du coup un frein entre guillemets à ce projet. Donc j'avais toujours cette idée de parler d'enfance avec ce côté Peter Pan. Et je me suis demandé un peu quel objet symbolisait pour moi l'enfance dans son origine propre, à savoir le jeu, et après aussi toute la volonté qu'on a à faire que l'enfance ça bouge, ça évolue et ça a aussi un impact dans notre vie. Donc j'ai fait des petites recherches.
L'objet est super bien choisi du coup.
Et j'ai choisi effectivement le moulin à vent, qui est un des plus anciens jouets européens finalement.
Oh.
Ça c'est ce que j'ai découvert en fait, c'est que c'est un objet que énormément de monde connaissent parce que ils l'ont vu dans des histoires, c'est très ancien.
C'est très universel.
C'est très universel.
Et d'ailleurs, ça rappelle chez tout le monde cette truc d'enfance, c'est vraiment enfant.
On se réjouit de les voir tourner. Alors du coup, il y avait effectivement ce côté universel qui était intéressant pour moi et ce côté coloré, puisque mon travail est quand même très coloré. Et ce qui est intéressant et très touchant, je trouve, avec cet objet, c'est que quand je me balade dans le métro, dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent.
C'est vrai ?
Qui sourient. Et j'ai même des gens qui me disent « Ah, il est beau votre moulin à vent !» Et je sens un petit peu d'émotion, mais ça c'est
C'est l'image de ton travail, c'est porteur de joie, le moulin à vent que tu travailles dans le métro, c'est une très jolie image. Ouais, donc c'est un beau projet créatif là que t'as lancé et tu récoltes des témoignages petit à petit des gens chez qui tu te rends pour avoir leur vision.
Exactement.
Et t'en voudrais combien ?
Ce projet Windmill, en fait, j'aimerais idéalement avoir une vingtaine de témoignages.
Ouais.
Donc les témoignages, vous irez regarder, ça porte sur l'enfance et deux questions particulières. La première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'un souvenir d'enfance qui t'est propre, qui t'est cher ? Alors, si possible, quand même, un souvenir joyeux.
Ouais.
Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais ? Et je trouve que c'est des questionnements qui se retrouvent dans une vie, dans la vie de tout le monde. Et donc c'est un format que je présente avec un petit format vidéo, c'est vraiment monté à l'iPhone pour pas trop de prise de tête. Et ensuite après des photos prises au Leica, parce que j'aime beaucoup le rendu des couleurs qui est assez vibrant.
C'est vrai que les photos sont vibrantes avec cette série.
Et en fait ce projet, en fait il a eu beaucoup de succès sur les réseaux. Parce que à chaque fois, en fait, on reçoit des leçons de vie.
Ouais. Moi, tu me le disais lors d'un café il y a quelques jours qu'il y a certains qui t'ont vraiment fait des claques de.
Ah ouais, mais en plus, j'adore me prendre des claques de ce type. Je trouve que les leçons de vie et puis la rencontre avec la personne, c'est toujours quelque chose.
Je trouve que c'est quelque chose justement qui découle souvent des projets créatifs. C'est qu'on s'attend à faire quelque chose pour s'amuser et finalement, on apprend énormément.
Ouais, complètement. Et voilà, et par exemple, vous irez voir, il y a Martin qui a 13 ans qui est passé devant mon objectif et je me disais j'avais pas d'appréhension, mais j'étais curieuse de me dire qu'est-ce qu'un ado, un jeune homme de 13 ans qui finalement et l'enfance pour lui c'était hier,
ouais.
Avec sa notion du temps, qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire. Et il m'a dit, vous avez regardé, je vous tease, mais il m'a dit, enfin il a une réflexion sur la vie qui était bluffante de maturité, et ça m'a vraiment scotché.
C'est fou, c'est ouf ça. Ah, c'est génial. Donc ouais, vraiment, les projets créatifs, c'est toujours ce qui tire un peu. Enfin, on sait jamais comment ça va se terminer.
Ouais.
Et ça prend du temps. Et ça change du coup.
Ça prend du temps. Et je pense que c'est vraiment important de garder du temps pour ça. Parce que moi, je me suis aperçue, ça devait être il y a 4-5 ans, que j'étais contente de faire des mariages et contente de faire des séances famille, etc. Mais que j'avais plus le temps de faire des choses pour moi.
Ouais.
Et ça me vidait un peu l'esprit, ça me vidait un peu le cœur, et je me disais, ouais, il faut prendre du temps pour soi, parce que là, je sens que ma vision, mes envies, ma motivation, et ben je commence à, alors pas à devenir blasée, mais c'était presque ça finalement.
Ouais.
Et puis c'est vrai qu'en fait, j'avais un rythme qui était aussi assez important. Je faisais 25 mariages par an.
Ouais, c'est énorme.
Il y a quelques années, maintenant j'ai deux enfants, donc. Donc j'ai beaucoup ralenti la cadence.
On chill un peu, ouais, après.
On chill beaucoup plus.
On peut, il y a un moment où il faut.
Et c'est vrai que...
Ça libère du temps, du coup.
Oui, exactement. Mais du coup, ce
temps... Et je pense que ton travail, même en mariage, du coup, n'est rendu que meilleur par le fait que tu t'accordes ce temps de créativité.
Exactement. Bah c'est... Voilà, moi, je fais toujours beaucoup d'analogies avec la nourriture.
J'adore.
Je trouve que c'est... Il y a un espèce de temps de digestion où parfois, en fait, le repas est fade.
Ouais.
Ou devient fade par la répétition. Effectivement, si on vous sert, je sais pas, de la purée maison tous les matins, enfin tout le temps au déjeuner, bah c'est sympa, mais il y a un moment où on va se lasser.
Ouais.
Et donc qu'est-ce qui va faire que ça va redonner du peps à cette purée, parce que finalement on peut toujours manger de la purée tous les jours. Ça va être de trouver les épices qui vont faire que cette purée aura un goût différent.
Alors, t'es en train de nous dire que la créativité, c'est les épices du travail.
Exactement.
C'est trop stylé. Il faut que je le mette en légende de description de ce podcast, c'est incroyable. J'adore la comparaison. Du coup, comment ça se travaille, la créativité ? Parce
comment
que quand on a l'habitude, comme tu disais, on est entre guillemets noyé, pour les photographes par exemple, dans un quotidien où on enchaîne les séances famille, les mariages et tout. Comment est-ce que du jour au lendemain on dit « Ok, je vais être créatif ». Ok, mais comment on fait ? Où est-ce qu'on va la chercher, pour toi ?
Alors ça, je pense que... Alors, je veux pas faire de déterminisme, parce que c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont un cerveau droit ou gauche qui marche plus que l'autre.
Ouais.
De même que les gens parfois sont plus littéraires ou scientifiques. Je pense que
il y a des prédispositions
à ça, de par l'environnement et l'accès à la culture aussi, l'accès aux inspirations. Et comment ça se travaille ? Ça se travaille sur le long terme. On peut pas décider du jour au lendemain d'être créatif. C'est un processus qui est plus long. On peut pas se dire ah bah vas-y demain je fais ça d'un coup. C'est plus
sur le long terme.
C'est personnel et dans la créativité, moi ce que je cherche à mettre en avant, c'est l'originalité de la création.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. On dit souvent ah machin, un tel m'a piqué tel contenu, un tel a fait pareil que moi, etc. Alors effectivement, on est arrivé, je pense, à un stade j'allais dire de l'humanité, mais je sais pas vraiment comment exprimer ça. Mais
non, mais si, c'est vrai.
À un stade où tout a été fait. Et on a aussi accès, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, à une propension énorme de contenu qui fait que
l'originalité pure
est très difficile. Et comment est-ce qu'on va réussir à créer un contenu original et créatif? Je pense que c'est un travail qui se fait sur sa personnalité, sur ses envies. Et ce que je constate en tout cas, c'est que beaucoup se mettent des freins qui sont des freins de temporalité par rapport à ce genre de projet où t'as envie de faire des choses. Ouais.
Le temps est un frein.
Le temps est un frein parce que en fait, il y en a souvent beaucoup qui se disent attends, mais ça va me prendre vachement de temps de lancer ce projet, etc. Je fais non.
C'est vrai.
En fait, assieds-toi à faire un plan et juste travaille ton attention en premier lieu. Travaille pas les résultantes de ce projet kiff, comme moi j'appelle ça des projets kiff. Travaille pas ces résultantes de projet kiff, travaille sur qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui toi t'a marqué. Et après, toute l'intelligence d'un projet kiff, d'un projet de création, ça va être de prendre des épices différentes, de tester, de dire ah bah voilà, là pour ma petite purée, bah j'aimerais bien prendre du safran parce que la couleur est jolie, là le paprika, bah finalement ça va être sympa, etc. Et parfois ça marche pas.
Ouais. Ah, donc dans la créativité, il y a une nécessité de savoir faire face à l'échec.
Exactement. Et c'est de se dire, bah ouais, moi j'ai des projets effectivement que j'avais en tête et qui n'ont jamais vu le jour.
Ah, ça existe pour toi aussi, reine de la créativité que tu as déjà eu des portes fermées que t'as jamais pu réouvrir.
Ouais, ou alors des choses qui se sont perdues en route, je voulais faire ça. Typiquement, j'avais un projet de faire toutes les églises de Paris.
c'est vrai. Colossal comme projet.
C'était colossal, c'était un projet en fait qui était paralysable dans le temps que je m'étais fixé. Moi, je m'étais fixé d'avoir réussi à faire tout ça à l'ouverture de Notre-Dame. Ce qui est demain. Donc,
est demain, littéralement.
Et c'est dommage parce que je partais effectivement avec des grandes espérances. On me disait, ah vas-y, c'est bien et tout. Et on va y arriver. Et en fait, je me suis fait dépasser par le truc.
Ouais.
Et c'est pas grave,
mais,
en fait.
Oui, mais le panache de départ, de l'intention, a quand même fait germer d'autres choses.
Exactement. Je me suis dit, bah ça m'a donné aussi envie d'observer plus les églises près de chez moi, de porter plus d'attention aux églises dans mes reportages. Donc finalement, effectivement, ça m'a fait travailler autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, l'échec, c'est pas vraiment un échec, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui en résulte. Et c'est bien, en fait.
Ouais. Ah, c'est hyper intéressant de constater que on n'est pas, on a tous un peu cette approche de la créativité, il faut faire du neuf, du nouveau tout le temps, sortir quelque chose d'extrêmement original. Non, pas forcément.
C'est
agréable de t'entendre vous dire
les choses les plus simples, franchement, parfois
Un moulin à vent, quoi, par exemple.
Un moulin à vent, et pourtant voilà, effectivement, ça a été quand même réfléchi en amont, d'où le côté travailler son intention. Mais par exemple, j'ai fait une séance avec des bulles. Je veux dire, les bulles, c'est à la portée de tout le monde, en fait. J'ai vu mon fils jouer avec des bulles. Je me suis dit, moi qui aime bien travailler avec des petits objets qui s'appellent des prismes, qui font réfléchir la lumière et du coup donnent des ambiances assez oniriques,
c'est
assez
poétiques. C'est ce qui m'a frappé quand t'as sorti quelques photos hier sur Instagram. À l'heure où on enregistre ce podcast, c'était hier. Les bulles font des prismes et reflètent des couleurs,
exactement,
etc. Un peu.
Et je me suis dit, en fait, ça va être un moyen de tester. Et puis voilà, j'avais acheté mon petit pistolet à bulles en me disant, en plus, c'est pas perdu parce que ça servira à mon fils.
Exactement.
Et je voulais tester le rendu. Et en fait, c'est hyper sympa. Mais voilà, c'est vous dire à partir d'un objet vraiment simple. Finalement, qu'il ne faut pas s'en faire toute une montagne et forcément avoir une intention universelle qui va faire la une des journaux. Non, en fait, on s'en fiche.
Faut un peu d'humilité pour avoir une créativité un peu saine.
Je sais pas si c'est. C'est plus se dire une simplicité de message.
Oui, c'est ça.
En fait.
Donc, c'est-à-dire pas avoir la prétention de se dire je vais faire quelque chose qui va changer le monde. Non, mais je vais partager quelque chose d'unique. Ça apparaît nulle part ailleurs, puisque c'est seulement dans ma tête que ça se passe.
Ouais, et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est assez criant. Moi, tous les projets qui me font des étincelles dans les yeux quand je les vois sur des comptes de mes confrères photographes ou d'autres artisans, etc., c'est des projets personnels, en fait. Parce qu'en fait, le personnel, c'est ce qui fait que c'est unique, puisque moi je trouve que chaque personne a une histoire à raconter.
Ouais.
Quel que soit son âge, sa condition, etc., son expérience, chaque personne a quelque chose à raconter. Et entre guillemets, c'est là aussi qu'est la beauté de la singularité, c'est de se dire que plus tu tires quelque chose de toi, plus t'es unique et en fait ça a de la
plus
valeur.
Plus ça aura d'âme en fait.
Ouais, ouais. Ça a de l'âme et ça a de la valeur en fait. Ça a de la valeur parce qu'en fait ça c'est hyper beau, c'est hyper puissant de se dire ça.
Incroyable. Et du coup, niveau support de créativité, chose qui t'inspire, comme tu disais, il n'y a pas de prédisposition ou de milieu social ou quoi, mais je sais que tu t'inspires beaucoup de l'art, des films, des musées, tu lis aussi, je crois, pas mal, à voir la bibliothèque qui est à côté de nous. Est-ce que tu pourrais nous donner des pistes qui ont défini la créativité comme tu la vois maintenant, des artistes, des auteurs, des sculpteurs, des choses qui t'ont marqué? Je crois que tu es une grande fan du Caravage.
Alors c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai pas finalement une liste vraiment établie d'inspiration, c'est plus des, moi je vais quand même t'en citer quelques-uns, mais des petites choses. Récemment j'ai lu un livre, alors là ma mémoire,
c'est bien, on est à côté de la bibliothèque donc elle peut se diriger promptement pour aller chercher l'ouvrage.
Voilà, c'est un auteur qui s'appelle Michel Pastoureau qui a écrit sur toutes les couleurs qui existent.
Je vois qu'elle a évidemment le livre jaune dans les mains. Si vous allez voir son compte, vous allez comprendre que c'est sa couleur.
Et Michel Pastoureau a fait un parallèle extrêmement intéressant avec les couleurs en disant qu'en Grèce antique, la lumière était considérée comme une couleur. Et j'ai trouvé hyper pertinent, bah, surtout en plus dans le travail de photographe.
Ouais.
Donc, qui m'inspire de manière plus formelle, c'est les gens qui travaillent cette matière. C'est les gens qui travaillent la couleur, qui travaillent effectivement la lumière, qui travaillent les sensations. Moi, par exemple, je suis des chorégraphes sur Instagram.
Ah ouais.
Parce que pour moi, je trouve que c'est important de comprendre un peu le mouvement, décor en mariage pour les sens de photos de groupe, etc. C'est des choses qui me servent. Mm-hmm. Je suis très inspirée par le milieu culinaire. J'aime beaucoup Top Chef.
J'adore.
Parce que je trouve que dans la cuisine, et surtout dans la cuisine de très haut niveau, il y a un niveau d'exigence par rapport à plein de critères qui sont effectivement le respect du produit, le respect des températures, la composition. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup de la photo. Donc c'est moi on me met devant Chef's Table qui a une émission sur Netflix. Ça m'inspire en fait d'écouter des chefs me raconter l'itinéraire d'une épice l'itinéraire d'un plat qu'ils ont fait. Moi je suis capable de rester 2 heures devant et d'écrire plein de trucs.
Ça active des choses dans ton cerveau qui vont développer derrière la capacité à construire autre chose avec.
Ouais. Et les films, ça dépend. C'est plus les films colorés qui m'attirent. Après moi je travaille beaucoup le storytelling, donc les plans qui vont être très lents, avec beaucoup d'amorces, ça va me parler selon le rythme. Là, dernièrement, j'ai été voir Dune 2 au cinéma.
J'ai
bien aimé.
Ça vaut le coup ? J'ai pas vu le 1,
je m'étais endormie devant parce que c'était très long et j'étais très fatiguée parce que c'était le moment où j'avais eu ma petite fille. Et le 2, j'avais peur d'être un peu sous l'eau et de rien comprendre, mais finalement, j'ai beaucoup apprécié.
Et visuellement, il y avait des plans intéressants, ou c'était décevant, ou l'inverse?
Je pense qu'effectivement, c'est un film à voir au cinéma. Le dernier film que j'avais été voir au cinéma, c'était Avatar 2, donc c'est vraiment pour vous dire que je vais être peu au cinéma.
Ouais.
Faut vraiment que ça vaille le coup. Et c'est là que du coup, les films m'inspirent pas mal. Un film que j'avais beaucoup aimé sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, c'est Roma. Du réalisateur Alfonso Cuarón.
Ok.
Alfonso Cuarón, c'est celui qui a réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Un réalisateur espagnol qui a fait du coup d'autres choses. Et c'est un film qui est très lent, c'est un film en noir et blanc, qui parle du rôle d'une nurse, d'une gouvernante qui est au sein d'une famille. Et c'est pendant un événement important au Mexique.
Donc ouais, il y a pas mal de supports qui sont là pour nourrir un peu la créativité. Mais moi, je trouve que tu es aussi la pro un peu des supports pour diffuser la créativité. C'est-à-dire que tu imagines dans ta tête, mais tu as aussi des outils. Tu fais découvrir un petit peu. Tu parles, tu es ambassadrice, je crois, d'une marque de prisme, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, je suis ambassadrice France de la marque Get Fractals. Alors c'est des prismes... Les prismes, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits objets qui font diffracter ou refléter la lumière selon leur forme et leur taille. Moi, j'avais commencé à essayer un peu les prismes en 2018. Parce qu'il y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Sam Heard, qui est un photographe américain, qui est un peu le pionnier des prismes en photographie. Et lui, il a commencé en fait à faire du prisme avec une espèce de barre convexe de forme oblongue et rectangulaire. Et j'avais acheté ce truc-là et en fait je n'ai jamais réussi à faire des photos correctes.
Ah merde, super frustrant.
Avec ce prisme, vraiment c'était un échec total.
Tu n'es pas resté sur cet échec visiblement.
Et donc je cherchais un petit peu quand même parce que j'avais toujours cette envie de jouer avec la lumière. Et j'ai trouvé du coup ces prismes par la marque Get Fractals qui sont entre guillemets ce que je préfère le plus utiliser pour avoir un résultat intéressant. Parce que c'est des prismes en fait qui se clipsent pas sur les objectifs.
Ouais.
C'est vraiment des prismes qui sont malléables.
C'est marrant, je sais pas si vous voyez comment c'est, mais ils ont une prise de poing américain.
Voilà.
Un peu. Sauf que c'est beaucoup moins violent. Mais à la douane, ça t'a posé problème déjà ?
Alors j'ai jamais pris.
Une fois, j'ai eu
à la douane.
J'ai pleuré pour les garder et je les ai gardés.
Mais parfois, je les emmène au musée du Louvre. Et à chaque fois, je flippe un peu de me dire est-ce qu'on va me les enlever ou pas.
Ça doit être hyper sympa au Louvre, ça. En fait,
non, ça va.
Ça passe.
Après, là, j'ai un mariage en Espagne en septembre, donc peut-être qu'on verra si j'arrive à les faire passer.
On voudra des nouvelles, faudra nous tenir au courant.
Mais c'est vrai que ces prismes, ça a vraiment été un game changer. Et depuis, enfin, je cherchais vraiment depuis hyper longtemps des prismes comme ça. Qui soient pas vraiment sur l'objectif, parce que je trouvais que c'était trop long de les visser sur l'objectif.
Ouais, moi, c'est contraignant.
Quand je suis en mariage ou en séance portrait, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de les visser. Ouais. Moi, il faut que j'en chope un, etc., dans ma petite trousse, et puis je me pose pas de questions.
Ouais. Et ça a été bien reçu, je trouve. Je sais que c'est assez atypique, des visions avec des prismes. Et de ce que j'ai vu quand tu les partages sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui plaît vachement. Est-ce que ça change ?
Les prismes, en fait, moi, je suis pas connue pour le côté image d'une netteté chirurgicale. C'est pas du tout ce que je cherche. En tout cas, en photo. Entre guillemets, les formules mathématiques pour calculer une distance focale ou un plan de netteté, absolument pas. Et entre guillemets, pour moi, ça rejoint aussi ma vision d'esprit et ma vision de la photo, c'est que ce que je vois, ce que je perçois, c'est les gens, ça peut être flou. C'est-à-dire que en fait, on n'est pas des êtres nets, parce que des êtres nets, pour moi, c'est des robots, etc. Alors que je trouve que quelqu'un qui a plein d'histoires, qui a plein de choses dans sa vie, il est pas tout net, quoi. Enfin,
c'est hyper intéressant dit comme ça.
Du coup, cette vision de la photo un peu floue, un peu en mouvement, avec effectivement ce que j'utilise aussi beaucoup, l'exposition longue pour avoir un effet de filet sur mes photos, ça rejoint cet état d'esprit de d'âme en mouvement, de personne en mouvement, et que la vie elle est pas figée, elle est pas nette.
C'est ça qui mérite du coup à ton travail quand on le regarde dans son ensemble, en tout cas ce que t'en partages sur les réseaux sociaux, c'est que l'adjectif qui vient en premier, c'est vivant. Ton travail, il est vivant. Et je pense que c'est justement pour cette gestion du mouvement permanent, de la lumière. La composition est toujours impeccable, mais elle méprise jamais le mouvement naturel ou l'instant, tu vois. C'est hyper agréable à regarder.
Ouais, parce que pour moi, la vie, effectivement, les choses immobiles, ça a tendance à me stresser un peu dans une foule. Je suis toujours la personne qui marche le plus vite.
Ouais. Malgré tout, on t'a déjà vu faire des portraits qui s'approchent presque de nature morte, de la Renaissance, avec des clairs obscurs. C'est figé, c'est incroyable aussi. Ouais. T'as quand même plusieurs cordes à ton arc.
Merci, c'est gentil.
La pauvre, elle va rougir à cause de moi. Comme il va falloir qu'on mette un petit terme quand même à cet épisode de podcast palpitant, parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler déjà dans tout ce qu'on a dit, je pense. J'avais envie de faire appel à ta capacité de professeur pour terminer cet épisode en te demandant 3 conseils pour travailler, développer, découvrir sa créativité.
Alors le premier conseil, ça serait d'oser. Oser faire plein de choses, quel que soit son âge, son expérience. Il y a beaucoup de gens qui se réfrènent de poser des choses, alors qu'en fait, vraiment, je sais qu'il y a des pépites qui sommeillent partout, dans plein de disques durs, dans plein de dossiers chez vous, et que dans le fait d'oser, il y a aussi une confrontation avec la vie populaire qu'on peut avoir, des gens, etc. Je sais que c'est quelque chose qui se travaille. Il faut se dire que parfois on a beau avoir mis toutes ses tripes dans ce projet, et bah pavé dans la mare ça marche pas, il y a
pas
aucun
grave.
Retour
et c'est pas grave
et c'est pas grave, juste que effectivement ça agresse notre senti, ouais. Parce que quand on dit que quand c'est comme encore une fois un parallèle culinaire, mais quand on a fait un bon gâteau au chocolat et que personne aime le gâteau au chocolat alors qu'on a passé du temps, et ben on est un peu triste.
Ouais.
Mais c'est pas grave, en fait, le gâteau au chocolat, on peut le refaire plein de fois. Et puis, c'est peut-être juste pas la bonne personne qui sait pas la goûter. Hein, voilà, y a pas de problème.
Oui, c'est clair, c'est vrai.
Donc voilà, c'est aussi oser et se préparer à l'échec éventuel, possible, et savoir rebondir si c'est le cas. Le deuxième conseil, ça serait de sortir de chez soi. Je pense que les photographes, on est très très sur les réseaux sociaux, sur les choses visuelles. On n'arrête pas de regarder des images à longueur de journée. Pour le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant parce qu'on est stimulé en permanence.
On avale.
Par des choses qui sont belles. Mais en fait, on voit tellement de choses belles qu'en fait, on sait plus ce qu'il y a de qualitatif. On n'arrive plus à discerner ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. Comme quand on est dans une pâtisserie et qu'il y a plein de gâteaux, etc., qui sont tous bons, en fait, il n'y en a aucun qui se démarque. Voilà. Et ouais. ça, il faut vraiment sortir de chez soi, couper les réseaux, se dire, voilà, on prend un temps pour un peu prendre soin de son œil, comme quand on prend soin de son âme, c'est pareil pour moi, c'est on va prendre soin de son œil, on bichonne, on va s'inspirer, on va dans des musées, effectivement, on va écouter une musique, on prend du temps pour observer ce qui nous entoure.
Okay.
Le rapport au monde...
C'est des conseils simples, hein, c'est cool, c'est une mise en pratique possible tout de suite, c'est génial.
C'est le rapport au monde, il faut qu'il soit ouvert et il faut pas rester chez soi parce que ça bride la créativité, vraiment, de rester chez soi enfermé et de ne vivre que par les réseaux.
Et le dernier
conseil, il est plus finalement d'un aspect littéraire, c'est je vous encourage à avoir un petit carnet ou une note sur votre téléphone si vous êtes plutôt digital. Mais d'avoir un endroit où vous pouvez noter vos ressentis. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un film, quand je lis un livre, ou même quand je me marche dans la rue, ça m'arrive de mettre des petites notes sur « Ah bah voilà, la démarche de cette personne, elle m'a inspirée. » Ou alors « Ce rouge, dans ce plan de scène, dans Star Wars, il m'a inspirée. »
C'est une vraie discipline, ça, hein, de prendre le temps de s'arrêter et de noter.
Ouais. Ce plat, il m'a inspirée parce que j'ai trouvé que voilà, ce tartare...
J'ai la dalle maintenant, après c'était... je sais pas vous, mais...
C'est tartare coréen à la poire, il était incroyable. Voilà. Et ensuite, à partir de ces ressentis, c'est ensuite travailler sur ces ressentis qui vont être une bonne base pour faire un projet avec des intentions.
Ok.
Voilà.
C'est dense comme trois conseils à mettre en place. Mais en même temps, c'est à portée de main, c'est quand même hyper accessible. Donc je pense que c'est une très bonne fin pour cet épisode. Merci d'être venue discuter avec nous.
Merci Ange pour ton invitation à ce podcast.
J'espère que ça vous aura plu. On va retourner à notre café, à notre croissant, à notre Kodak, et on vous dit à bientôt.
À bientôt.